Psaume numéro 36. Donc les enfants, vous pouvez monter avec Madame Barnes. Donc le psaume 36, vous voyez tout de suite le premier verset, il dit au chef des chantres du serviteur de l'Éternel de David. Nous allons prier avant de continuer. Père Céleste, c'est ta parole que nous ouvrons. Et Seigneur, si tu nous as parlé et tu nous as donné ce texte, c'est pour notre enseignement, c'est pour nous faire connaître des choses. Et Seigneur, nous avons besoin que toi tu nous aides. Nous avons besoin que toi tu nous éclaires. Et Seigneur, nous voulons comprendre ces versets comme toi tu les comprends. Et non pas selon notre intelligence, mais selon ce que l'Esprit Saint nous enseigne. Et Père, c'est ta parole que nous ouvrons, c'est à tes pieds que nous nous asseyons, et c'est de toi que nous voulons recevoir la part qui ne nous sera jamais ôtée. Père, dirige-nous maintenant dans notre réflexion, nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est David. On a l'habitude que tout ce qui vient à David, il dit des bonnes choses, surtout quand il est inspiré de Dieu. Mais là, il parle comme le serviteur qui décrit son maître. Et je sais que de nos jours, c'est le genre d'expression ou d'image que nous n'aimons pas, parce que l'histoire d'un serviteur et d'un maître, ça toujours, c'est mal vu. Hein, ce qui est vrai, c'est que personne ne connaît le maître comme le serviteur. Il le connaît autrement que tous les autres. Et en plus, ici, le maître, c'est l'Éternel. Nous avons l'habitude d'entendre dire des maîtres qu'il est cruel, qu'il est violent, qu'il est injuste, qu'il est orgueilleux, et j'en passe. Mais ce n'est pas ainsi que David décrit son maître. Regardez, on va lire à partir du verset 6. Il dit, « Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues, ta justice est comme les montagnes de Dieu, tes jugements sont comme le grand abîme. Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu, à l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. » Et ce matin, nous allons nous arrêter juste sur cette dernière phrase. Là, il a dit beaucoup de belles choses concernant son maître. Lui, il a un maître différent de tous les autres maîtres. Hein? Et il n'aurait pas pu dire mieux sur son maître. Et là, il termine et dit, « Par ta lumière, nous voyons la lumière. » Et c'est là que nous allons nous concentrer ce matin. Parce que, si je comprends bien ce qu'il dit, « Par ta lumière, nous voyons la lumière », on pourrait le dire autrement, Éternel, c'est par le moyen de ta lumière, que la lumière que tu nous donnes, que nous pouvons voir la lumière, que nous pouvons voir la réalité des choses. On a besoin de ta lumière pour bien voir, pour voir les choses telles qu'elles sont. Ici, dans le psaume, et peut-être combien de fois vous l'avez lu, et puis ça fait poétique, par ta lumière, nous avons vu la lumière. Ça fait beau, hein, dans la poésie. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Nous pourrions même comprendre, parce que c'est de l'affirmatif, que sans cette lumière, il est impossible de voir la lumière. La lumière dont il parle. Et dans un sens, il y aurait une cécité naturelle qui est chez les hommes, qui les empêche de voir. Hein, c'est comme un aveugle, et bien même s'il fait jour, pour lui c'est pareil. Hein, j'ai déjà rencontré des gens qui étaient aveugles nés, et c'est sûr que le jour, la nuit, c'est pareil. Et il y en avait même un qui était étudiant avec moi, et ben lui, il pouvait se lever à n'importe quelle heure de la nuit, puis se mettre à travailler, hein, comme d'habitude, et puis s'il se mettait à taper à la machine, parce que c'est des anciennes machines, hein, tac, 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 les dactylos, on se plaignait, mais lui, ça ne changeait rien, hein, que ce soit 3 heures du matin, c'était pareil pour lui. Mais, et lui, il le reconnaissait, qu'il y avait quand même pas mal de choses qu'il ne voyait pas. Et l'être humain, hein, dans l'esprit de Dieu, eh bien, l'être humain a beaucoup de choses qu'il ne voit pas. J'ai une petite fille qui, bébé, était aussi heureuse que tous les autres nourrissons. Mais la maman s'est rendue compte qu'elle avait un problème de vue. Le bébé, non ? T'es heureux ? T'es content ? Faisait des sourires ? Reconnaissait les voix ? Mais un jour, elle a été chez l'opticien, et puis là, ils ont essayé de mettre cet appareil, ces montures sur la tête du bébé. Vous savez comment sont les bébés, hein, dès qu'on met quelque chose sur la tête, ils l'enlèvent. Et elle se débattait pour enlever cela, qu'elle n'avait rien à faire avec cela, jusqu'au moment où on a pu forcer ça et mettre les verres devant les yeux, et tout d'un coup, elle s'est arrêtée, elle a regardé. Et elle s'est rendue compte qu'elle a pu voir ce qu'elle ne voyait pas avant. Vous savez, et j'ai trouvé ça, c'est une image en fait. Hein, l'homme naturel croit voir et comprendre beaucoup de choses. Et il est assez sûr de lui. Et puis il est même, jusqu'à un certain point, heureux avec ce qu'il voit. Parce qu'il n'est pas conscient de ce qu'il ne voit pas. Il ne sait pas combien il ne voit pas. Et nous qui avons reçu le Seigneur Jésus, qui sommes éclairés par la parole et par l'Esprit Saint, tout d'un coup, notre vue a été améliorée. Et on a vu les choses autrement. C'est ce bébé, ma petite fille, hein, donc c'est spécial, eh bien, elle avait besoin de quelqu'un, un spécialiste qui sache lui rendre la vue, lui donner de la lumière, et même s'imposer un petit peu, tellement il était sûr de lui. Et puis l'expérience a été confirmée, et la petite, eh bien, elle porte des lunettes depuis, hein, elle ne les avait jamais rejetées. Hein, c'est la première chose qu'elle fait le matin, c'est de les prendre. Et nous aussi, ça doit être l'exemple pour nous en tant qu'enfants de Dieu. C'est de dire, Seigneur, mais sans ta lumière, je ne peux rien voir. Et je vais terminer avec ça, mais je vais le dire maintenant aussi parce que c'est bon de le rappeler. Dans un sens, chaque fois que j'ouvre la Bible, je dois dire, Dieu, donne-moi tes lunettes pour que je voie la lumière que tu nous as révélé, pour que je le comprenne, que je l'apprécie. L'homme naturel tire beaucoup de conclusions. Et il croit voir. Le problème, c'est que, et vous le savez, il est constamment en train de mettre à jour les informations qu'il a. Et là, ces temps-ci, avec le Covid-19, hein, entre ce qu'on a entendu au début, ce qu'on a entendu une semaine après, une autre semaine après, le mois après, et ce qu'on a entendu encore, et ça évolue, ça change. Pourquoi ? Parce qu'on ne pouvait pas tout voir. Hein, ce n'était pas la mauvaise volonté, mais c'est qu'il y avait, c'est quelque chose d'inconnu, et une cécité. Mais c'est la même chose existe par rapport, pour l'homme naturel par rapport aux choses de Dieu. Et combien de fois l'homme essaye de tirer des conclusions et faire des affirmations concernant Dieu, alors qu'il ne voit pas clair. Il ne peut que se tromper. Mais comme il est tellement sûr de lui et de sa capacité de voir, eh bien, il se promène sur cette terre avec assurance. Oui, Dieu, je n'en ai pas besoin. Comme j'ai lu dernièrement, l'athée dit que les autres ont inventé la religion, c'est parce qu'ils ont peur du noir. Et il y a l'autre qui répond et dit, oui, mais l'athée a inventé, inventé l'athéisme parce qu'il a peur de la lumière. Et c'est justement ça que nous avons besoin de reconnaître notre cécité. Hein? Quand on a un handicap, la meilleure chose, c'est de reconnaître et puis de voir ce qu'on peut faire pour y remédier. Et si on veut connaître Dieu, bien sûr que Paul dit on peut regarder la nature et on peut voir certaines choses concernant Dieu. Hein, c'est comme celui qui regarde votre garde-robe et puis essaie de deviner votre personnalité. On arrive à tirer quelques conclusions quand même. Mais on ne peut pas dire je connais la personne, hein, j'ai vu sa garde-robe. Et nous ne pouvons pas regarder à la nature et dire ben, je connais Dieu. C'est pour cela que Dieu il s'est révélé. Il nous a parlé. Il a dit, vous avez besoin de ma lumière pour voir la lumière. Et nous avons besoin de son aide pour le découvrir, pour comprendre son fonctionnement, pour comprendre la relation, pour avoir la relation que David avait avec son maître. Lui a connu, il a fait la connaissance, il a pu voir, il a dit, tu m'as éclairé pour que je te voie, et moi je te trouve merveilleux, bon, meilleur que n'importe quel autre maître dans le monde. Il dit, c'est parce que tu t'es révélé à moi, tu m'as éclairé là-dessus. Et nous, si nous voulons avoir une telle communion, une communion telle que l'a décrit David, eh bien, nous aussi, nous avons besoin d'être éclairés afin de le connaître. Vous savez, ce n'est pas par hasard que la première chose qui a été créée ou qui a apparu lors de la création, c'était la lumière. Hein, vous lisez dans Genèse chapitre 1, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et combien, en voulant critiquer le texte biblique, on dit « Oui, mais le soleil, la lune, ça a été créé que le quatrième jour, alors d'où vient cette lumière ?» Eh bien justement, il ne parlait pas d'une lumière qui proviendrait d'un astre en combustion, qui ne proviendrait pas d'une réflexion. En fait, lorsque nous voyons sa description des luminaires, comme il dit, eh bien, les luminaires sont là, non pas pour nous éclairer, ils sont là pour marquer le temps. Il dit les jours, les années, les saisons. C'est pour ça que le soleil est là. C'est pour ça que la lune est là. Pas pour nous donner de la lumière. La lumière, elle est déjà. Elle existe déjà. Il y a une lumière dont il parle. Le sens biblique de la lumière englobe beaucoup plus que le simple fait d'avoir quelque chose qui provoque une réflexion. Hein, parce que si nous voyons des choses, c'est parce qu'il y a un reflet de la lumière. Et comme ça se reflète de différentes manières, on voit des couleurs. Mais et donc on a d'autres manières. On peut le faire avec... oui, le soleil, bien sûr, il le fait. On a l'habitude du soleil qui éclaire. Mais bon, le feu, la combustion, le bois qui brûle, ça éclaire. On a d'autres méthodes, on arrive à faire éclairer des résistances, hein, on en fait des ampoules, puis des explosions, ça fait de la lumière aussi, hein, bon, il faut regarder vite. Mais il ne parle pas de cette lumière-là. Il parle d'une lumière qui est là, et qui nous permet de voir ce qui ne peut pas être vu autrement. Dans le psaume 119, et là j'ai deux versets que je veux lire, mais dans le psaume 119, et au verset 130, le psaume 119, 130, il nous dit « La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. » Donc les simples ne sont pas oubliés. Mais dit ta révélation, la révélation de tes paroles est claire. Ces paroles, ben c'est ce que nous avons ici dans la Bible. Et dit c'est pour nous éclairer. Ça a été donné pour nous éclairer. Donc nous devons y faire appel. Bien sûr, on comprend très vite qu'il ne s'agit pas du soleil, et ni de la lumière qui se dégage par notre moyen. Et dans le même psaume, et au verset 105, il nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Ta parole. Et donc il est en train de mettre en valeur, il nous dit nous avons besoin d'une lumière. Et cette lumière qui va nous conduire, qui va nous permettre de voir, c'est cette parole, c'est à travers de cette parole qui nous a été révélée, où Dieu s'est révélé, par le biais des hommes, il s'est révélé à nous. Regardez avec moi dans l'évangile de Jean, et au chapitre 1, il dit des choses qui peuvent paraître un peu particulières. Jean chapitre 1, et je commence, je lis au verset 5, il nous dit « La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Nous avons l'habitude que, quand il y a de la lumière, il n'y a pas de ténèbres. Hein, c'est pour ça que vous promenez avec une lampe de poche, c'est pour ça, la lumière chasse les ténèbres. En fait, les ténèbres, il n'y a rien à chasser, parce qu'il n'y a rien. C'est quand la lumière n'est pas là qu'il fait noir. Mais ici, il nous dit que les ténèbres ont pu repousser la lumière. Donc, il parle d'autre chose. Il parle d'une lumière qui est là, et c'est selon notre volonté, si on la reçoit, eh bien, on est éclairé. Si on la refuse, on n'est pas éclairé. Et on reste dans nos ténèbres, on reste dans notre ignorance, dans notre incompréhension, dans notre confusion. Et si nous poussons la lecture dans ce chapitre 1, regardez à partir du verset 9, il dit « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, pourtant le soleil était déjà, hein, donc c'est pas de cette lumière-là, en venant dans le monde, éclaire tout homme. » Ça peut éclairer tout homme. Hein, celui qui le reçoit, celui qui l'accepte, qui se laisse éclairer par cette lumière. Hein, elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Donc c'est cette lumière qui était là, la création. C'est cette lumière que Dieu a pu dire que la lumière soit, et elle était parce que la lumière existait déjà. Et le monde ne l'a point connue. Mais il ajoute au verset 11, et versets 11 et 12 sont très importants, parce qu'il parle de cette lumière, il dit « Elle est venue chez les siens, et les siens n'ont point reçu. » Il parle de Jésus-Christ qui est venu chez les siens, donc Israël, et Israël l'a rejeté. Mais ils ont pu le rejeter. Cette lumière-là, ils ont pu la rejeter. Mais au verset 12, il nous dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Mais il dit, comme c'est une lumière qu'on reçoit, si on la veut, elle est là, elle est disponible, mais il faut la recevoir. Et il y a un acte de foi, il y a une confiance qu'on fait en cette lumière, et lorsqu'on fait confiance à cette lumière, eh bien, elle commence à nous rendre capables de voir la lumière, voir les choses telles qu'elles sont, dans le monde et par rapport à Dieu. Au chapitre 8, verset 12, Jésus dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Il dit « Je suis cette lumière. Et je suis là. » Elle est là à notre portée, mais il faut la recevoir. Il faut lui faire confiance. La lumière dont il nous est parlé, c'est la révélation de Dieu. C'est Dieu qui se fait connaître. Et cette lumière nous permet de le connaître. Celui qui veut contourner Dieu, qui veut essayer d'y arriver sans passer par Dieu, eh bien, ne peut pas. C'est impossible, parce que c'est par ta lumière que je vois la lumière. Vous savez, c'est comme celui qui veut connaître le contenu d'un livre, mais qui ne veut pas lire le livre. Eh bien, il ne peut pas faire autrement. Il peut rencontrer des gens qui l'ont lu et dire « Ah, il est pas mal ce livre, il est très bien, il y a des choses intéressantes. » Mais il faut la lire, il faut lire, faire confiance à ce qu'on lit et on découvre des choses. C'est pareil avec Dieu. Et nous devons recevoir Jésus-Christ parce que c'est lui qui nous permet de saisir les vérités concernant Dieu. Dans Jean chapitre 1, verset 18, je ne sais pas si vous êtes encore là, mais il dit « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. » On ne peut pas le connaître sinon par Jésus-Christ. Il est notre lumière, il nous éclaire, il nous fait connaître Dieu, il nous le présente. Et quand on découvre Dieu tel qu'il est réellement, eh bien alors là on peut emprunter des paroles de David qui décrit l'Éternel. Et c'est tellement vrai qu'il est dit que Dieu, c'est parce que Dieu est lumière. 1 Jean chapitre 1, verset 7, il dit « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. » Combien sont ceux qui sont à genoux et essayent de s'adresser à Dieu? Ceux qui par toutes sortes de moyens voudraient avoir le péché pardonné. Il dit, mais le seul moyen, c'est de marcher dans la lumière, de se laisser éclairer par cette lumière, et de voir la lumière. Et là, nous sommes mutuellement en communion. Là, on se comprend. Là, on a cette relation que David, ça ne le gênait pas de dire « je suis le serviteur » et lui le maître, parce qu'il y avait une telle relation que c'était une communion ensemble. Comment comprendre la différence entre le fait de se laisser éclairer par la lumière qui nous est donnée et le fait de ne pas être éclairé par cette lumière? Je vais vous donner un exemple. Vous vous souvenez, les douze espions que Moïse a envoyés à Canaan. Un représentant de chaque tribu, des hommes de confiance. La tribu avait choisi son représentant et qui allait apporter un rapport. Ils ont été ensemble, ils n'ont jamais été dispersés, ils sont restés ensemble. Ce que l'un a vu, les autres ont vu. Et ils ont passé les 40 jours dans le pays, ils l'ont vu en long et en large, ils sont revenus, ils ont donné un rapport. Et dans Nombre chapitre 13, verset 27, il nous dit, chacun pouvait dire, à la vérité, c'est un pays où coule le lait, le miel, et en voici les fruits. Et c'est sûr qu'ils avaient là, ils avaient amené des échantillons, il y avait une grappe qui devait être portée par deux hommes. Donc il a dit, le raisin d'Eshkol, hein, c'est, il dit, c'est vrai, c'est un pays où coule le lait, le miel. Et ils étaient tous d'accord jusqu'à ce point-là. Mais après, il y a une différence. Hein, vous vous souvenez, là, il y en a 10 qui prennent une position et 10 et 2 qui prennent l'autre position. Il y a Caleb qui parle pour lui et Josué. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Et les autres espions, qui étaient montés aussi, dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Ah, où est la différence? Ils ont vu la même chose. Ils sont d'Israël. Ils ont la même promesse. Et tout est là. Mais quand il s'agit d'agir, c'est pas la même chose. Vous avez peut-être remarqué, c'est la réponse est dans leur manière de parler. Les uns, ils disent, mais nous avons un grand Dieu. Tandis que l'autre dit, les hommes sont grands. Ils ont vu la même chose. Mais les uns se sont laissés éclairer par la lumière qui leur avait été donnée déjà au Sinaï. Ils ont vu, en Égypte, ils ont vu leur Dieu, combien il était grand et pouvait intervenir. Et ils ont fait confiance à cette lumière-là qui leur a été donnée en Égypte, qui a été confirmée au Sinaï et qui a été confirmée combien de fois, à chaque fois qu'ils étaient dans le besoin. Et celui qui a dit « Je m'appelle, je suis » était vraiment ce dont il avait besoin quand il l'avait besoin. Il était vraiment le « Je suis ». Pas seulement celui qui est éternel et celui qui est toujours et qui peut à n'importe quel moment dire « Je suis ». Mais en plus, il a dit « Je suis celui qui est ce dont tu as besoin ». Et les autres, eh bien, ils ne marchaient plus dans cette lumière-là. Et eux voyaient ce que l'intelligence voit, ce que les yeux voient, et ont vu de grands hommes avec de hautes murailles. Et dis-nous, nous sommes comme des sauterelles à côté d'eux. Et vous savez, les deux ont vu la même chose. Certains ont vu un potentiel extraordinaire, tandis que les autres ont vu un immense obstacle. Pourquoi? Parce qu'ils ne marchaient pas dans la même lumière. C'est la seule différence. Chaque groupe était logique selon la perception qu'il avait. Chacun était intelligent, logique, avec la lumière à laquelle il faisait appel. L'un s'appuie sur les révélations et les promesses de Dieu, l'autre s'appuie sur ses sens. Et ça, c'est pas du tout la même chose. Le résultat n'est pas le même. Et on le comprend, on le voit, on le vit tous les jours, dès qu'on a des discussions avec les gens. Vous le dites, la Bible dit, dit parce que moi j'ai refusé cette lumière-là, moi je me contente de cette lumière de mon intelligence. Et oui, mais après, il faut accepter la cécité que ça te donne aussi. Hein, tu ne peux pas voir plus loin. Tu es sincère, c'est sûr. Je comprends que tu es sincère. Je comprends que c'est logique. Je comprends que ton raisonnement, il tient debout. Seulement, tu n'as pas toute la lumière. Et donc, les conclusions, elles sont manquantes, elles sont faibles. Elles ont besoin d'être révisées régulièrement. Vous savez, c'est la lumière que la foi leur donnait, permettait à Josué et Caleb d'arriver à une autre conclusion que les autres. Les autres n'avaient pas faux, mais Caleb, ils ont fait appel à cette autre lumière et ils ont vu ce que les autres ne voyaient pas. Vous savez, c'est exactement la même chose de nos jours. Nous sommes tous, nous marchons sur cette même terre, nous avons les mêmes réalités. Hein, l'un a besoin de porter un masque comme l'autre. Mais on ne voit pas les choses de la même manière. Et l'un est paniqué par les choses, tandis que l'autre, eh bien, il voit la parole de Dieu qui s'accomplit. Et il dit, Seigneur, je t'attends, viens. Le prophète Ésaïe avait annoncé dans Ésaïe 9, hein, c'est le chapitre messianique hein, d'Ésaïe. Et il avait annoncé dans le verset 1, tout de suite, il dit, « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. » Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Il parle du peuple de Dieu, des enfants d'Israël qui marchaient dans les ténèbres. Il dit, « Il y a une grande lumière qui est apparue. » Et Jésus reprend cette parole, dans Matthieu chapitre 4, et au verset 16, et il cite ce même verset, parce que lui est cette lumière qui est apparue, pour que les hommes voient. Il est cette lumière. Et dans Jacques chapitre 1, verset 17, il nous dit, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Chez Dieu, il n'y a pas de mise à jour. La lumière est telle que les choses sont claires dès le début. Jésus est cette lumière. C'est pour ça qu'on est un peu, on est un peu coincé avec le nom de Jésus. Hein, le nom de Jésus est toujours là. C'est un membre de la famille, c'est un mot qui est toujours là. D'autres ont d'autres mots qu'ils répètent souvent, mais on a le nom de Jésus. Parce que tout est en lui. Dans Proverbes chapitre 6, verset 23, il dit, « Car le précepte est une lampe, et l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. » Il dit, « Acceptons. Acceptons. Cette lumière, eh bien, elle fait des corrections. Paul parlait du renouvellement de l'intelligence. C'est vrai que depuis que j'ai le Seigneur, je refais tout ce que je sais, je le fais repasser par la parole de Dieu. Hein, on peut pas, la vie chrétienne, on peut pas, une partie de la vie, on la vit avec les pensées du monde, et puis l'autre partie, c'est j'ai le côté spirituel, et donc là, je pense à Dieu, mais sinon, à part ça, c'est tout à fait... Non, la lumière, elle est partout. Et elle influe notre manière de vivre, sur notre manière de vivre. Jean chapitre 12, versets 35 et 36, Jésus leur dit, « La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. » Vivons dans cette lumière. Elle est là, elle brille, elle est là. Eh bien, vivons dans cette lumière, tout le temps, tous les jours, sur tous les sujets. Et c'est là ce qui nous permettrait de voir autrement. Et c'est ça, et nous verrons, et il y aura la même différence qu'il y avait entre les 10 espions et les 2 espions, et bien la même chose, on la vivra. Certains seront paniqués, d'autres, et bien verront des opportunités. Et donc, je rappelle ce que j'ai dit plus tôt, c'est que le premier geste qui découle de tout cela, c'est que, avant d'ouvrir la parole de Dieu, il faut prier. Dire Seigneur, hein, c'est avant de sortir, se promener la nuit, eh bien, prends ta lampe, allume ta lampe. Eh bien, avant d'ouvrir la parole de Dieu, plutôt que d'essayer de la comprendre avec ton intelligence et ta cécité naturelle, eh bien, dis du Seigneur, que ta lumière brille sur ces versets et que je les comprenne tels que tu les as vite. Aide-moi, éclaire-moi. Que ta lumière me permette de voir la lumière qui est là et qui me permettra de voir le monde qui m'entoure autrement. Vous savez, les 10 espions qui ont essayé de voir avec leur sens, eh bien, ne sont jamais rentrés en Canaan. Tandis que les 2 qui ont fait confiance à cette lumière qui leur venait de Dieu, des promesses de Dieu, ils sont rentrés dans Canaan. Et c'est pareil pour nous. Et nous pouvons être nés de nouveau, hein, nous pouvons être dans le peuple de Dieu, mais si après je marche selon l'intelligence humaine, plutôt que de marcher selon la lumière que Dieu nous accorde, et ce n'est pas forcément en contradiction, hein, c'est seulement de mieux voir ce qui est. Ce n'est pas une question de voir, non, on voit mieux ce qui se passe. Et nous avons besoin de cela. Hein, je ne vois plus avec la sagesse défectueuse de l'homme. Et puisque la parole de Dieu est cette lumière, parce que Jésus est la lumière incarnée, eh bien, c'est à eux qu'on se tourne, c'est à Jésus-Christ, et donc en toute chose, c'est Jésus. Et puis après, on plonge les regards dans la parole de Dieu, afin d'être éclairé en toute chose et de marcher dans la lumière. Et alors là, eh bien, nous pourrons avoir cette relation qu'avait David avec l'Éternel. Et je vous rappelle ce qu'il a pu dire. Il a dit: Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. Ta justice est comme les montagnes de Dieu, tes jugements sont comme le grand abîme. Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison et tu les abreuves au torrent de tes délices. C'est auprès de toi qu'est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Oh, que ce soit vrai de nous. Que ce ne soit pas juste une chose dont David a connue, mais que ce soit vrai pour chacun d'entre nous. Par ta lumière, Seigneur, je vois la lumière. Je vois ce que tu nous révèles. Je vois ce qui est. Et je vois les choses telles qu'elles sont réellement. Et je te vois, toi, tel que tu es réellement. Oh, que le Seigneur nous aide. Et si vous dites, mais tout ça, ça m'échappe, c'est beau, mais l'adresse pour trouver cette lumière, c'est à la croix. Là, au pied de la croix, vous agenouillez devant la croix, dites: Seigneur, je suis un homme pécheur. Et tel que je suis, il m'est impossible d'être reçu par un Dieu saint. Aussi miséricordieux qu'il est, aussi plein de grâce qu'il est, mais mon péché l'empêche. Je veux que mon péché soit pardonné, et la Bible me dit, tu as révélé que Jésus est mort sur la croix pour les péchés, pour effacer le péché. Pardonne mon péché. Je veux marcher dans la lumière, celle que toi tu as. Celle que toi tu as créée, cette lumière du premier jour de la création, cette lumière dont a parlé Ésaïe, une grande lumière qui est venue dans le peuple. Père, je veux ça pour le restant de ma vie. Prions. Père Céleste, nous te remercions parce que tu es un Dieu fidèle et parce que ce qui nous dérange, ce n'est pas le fait qu'il y ait un mystère là, c'est le fait qu'il soit pour nous, que nous comprenions ou pas comment ça marche, mais la réalité c'est que ta lumière nous permet de voir la lumière. Et c'est ce que nous voulons ce matin. Père, nous te prions de nous aider. Tu connais l'aspiration de chacun, tu sais quelles ont été les pensées de chacun. Et Seigneur, surtout, nous voulons, comme il dit Jean, nous voulons être en communion avec le Père, c'est marcher dans la lumière, comme il est la lumière. Père, à toi toute la gloire et l'honneur, et c'est au nom de Jésus-Christ, et c'est avec cette Bible ouverte que nous prions. Amen.